Elle avait des tarots tatoués sur l'épaule droite encadrée par deux cicatrices au couteau. Elle était née à...
Bonjour, bienvenue aux auditeurs et auditrices des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère, qu'on peut écouter au 88.4 sur la bande FM ou sur le canal 8C du réseau numérique terrestre, sans omettre notre fenêtre ouverte sur le monde de www.radiogalère.org. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Saïd Boukounouch, qui habituellement est co-animateur, mais aujourd'hui il est invité, Karima Berich, notre passeuse de mémoire, Jean-Marc Ega, et nous aurons par téléphone Mouloud Benayad. Excusez-moi pour cette latence, c'est parce qu'il n'apparaît pas dans ma liste d'invités. Aujourd'hui, Saïd représente le collectif Mémoire en Marche. Donc, pourquoi est-ce que Saïd est invité et qu'il n'est pas co-animateur? Mais c'est parce que justement, il représente ce collectif et qu'il va nous parler de la marche pour l'égalité des chances. Et excusez-moi pour ce lapsus, parce que de nos jours, l'égalité vient avec l'égalité des droits, des chances. Mais effectivement, la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme de 83, improprement qualifiée à l'époque par les médias de marche des beurs. De marche des beurs, alors que le mot d'ordre des marcheurs était ni beurre ni margarine. Nous espérons que d'autres marcheurs ou membres actuels du collectif Mémoire en Marche pourront intervenir par téléphone. Donc, j'ai failli oublier notre chère équipe, donc composée de Farid Adrar, qui est à la réalisation, et notre fidèle ami Sidi Diallo de Radio Galère, qui est à la technique. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons avec nous des spectateurs, des petits spectateurs, très jeunes. Ne fais pas la grimace, Bibi. Je parle de toi, effectivement. Donc nous avons avec nous des enfants qui participent quotidiennement, j'ai envie de dire, c'est le cas, aux activités mises en place par le comité Maméga. Donc avec nous, nous avons Bibi, Nazad, Mariam, Jamila, Jaïda et Naïma. Excusez-moi pour avoir écorché certains noms. Oui, on tricote un petit peu aujourd'hui. Donc... je reviens sur le sujet. Ces militants et militantes à l'initiative de cette marche devenue historique a été organisée pour protester contre les crimes racistes, les discriminations et les inégalités que subissaient les immigrés et les personnes d'origine étrangère en France. Notre invité, avec beaucoup d'autres, ont joué un rôle important dans cette marche, même si au départ, ils ne furent pas très nombreux. Nous allons donc tenter, à la lueur du passé, éclairer le présent et ainsi cerner l'apport de cette initiative inscrite dans certaines mémoires qu'il faut partager pour qu'elle devienne une mémoire collective. Est-ce une gageure ou un pari sur l'avenir qui se construit aujourd'hui avec notamment nos deux invités qui vont se présenter après cette première pause musicale? Mais avant de faire cette pause musicale, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai oublié qu'autour de la table, il y avait avec nous l'animateur historique des Échos du Grand Saint-Barthélemy, bien d'autres émissions, Jean-Marc Ega. Oui, parce qu'on va t'entendre parler, on va se demander où est-ce... Jean-Marc est avec nous aujourd'hui autour de la table. Donc on se laisse avec une première pause musicale qui est le morceau carte de séjour Douce France.
Tes souvenirs fabriqués et il revient à ma mémoire. Tes souvenirs fabriqués et il revient à ma mémoire. Souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,
toujours à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy en direct des locaux du comité Maméga, comme tous les jeudis, derniers jeudis du mois, sur le 88.4 FM et le canal 8C en DAB+. Vient de nous rejoindre par téléphone Mouloud Benayad de Martigues. Donc Mouloud, bonjour. Bonjour Mouloud.
Bonjour Mouloud. Bonjour, j'entends très faiblement Saïd, mais ça va, je disais que j'étais très ému de faire cette émission avec vous, puis j'espère que ça, il y aura pas de, enfin, tout se passera bien pendant cette émission. Vous voulez que je me présente ou vous entendez bien, ça va?
Exactement, je t'entends très bien. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui. Alors, je m'appelle donc, comme vous l'avez dit, Mouloud Benayad.
Oui, donc tu étais l'un des marcheurs aux côtés de Saïd, c'est bien ça? Donc oui,
ensemble,
tu nous entends pas.
On entend, voilà. Tu m'entends très loin, je suis très près là.
Jean-Marc, tu voulais dire?
Oui, bonjour Mouloud, Jean-Marc. Donc,
bonjour Jean-Marc.
Oui, tu vas bien, j'espère. Ça y est, je constate que la liaison elle est enfin établie, puisque tu nous perçois parfaitement. Donc nous allons continuer sur ta présentation, à savoir que tu n'es pas de Marseille, tu es de Martigues, à proximité, tu es un cousin en quelque sorte. Donc peut-être que tu peux nous rappeler un peu comment les choses se sont faites, comment tu as rencontré, que tu as rejoint les premières personnes qui étaient à l'initiative un peu sur Marseille de cette marche, même si ça n'a pas été directement Marseille, mais c'était surtout des camarades de Lyon.
Pour vous expliquer, je suis habitant Martigues, j'ai quand même voulu me rapprocher de ce mouvement-là qui démarrait sur Marseille, mais nous avons sur Martigues créé une association qui s'appelait Nejma, en rapport au livre de Kateb Yassine, qui n'a malheureusement pas eu le prix de littérature. Mais en tout cas, j'avais un contact avec Saïd, qui a toujours, jusqu'à aujourd'hui, a été maintenu. Et grâce au fait que j'étais intéressé pour toujours avancer et me poser des questions par rapport à la guerre d'Algérie qui a eu lieu, qui s'est terminée en 62, mais étant né à Martigues, nous avons connu les problèmes d'exaction par rapport à la police, la gendarmerie et la brigade nord-africaine composée d'un responsable français et de Harki. Donc nous avons été très 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 touchés par cette période. Et mon père était un militant donc SLM. Et pour cela, il y a quelque chose qui faisait que je voulais un peu reprendre la vie dans le système qui était dans notre enfance. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce pays quand on était d'origine étrangère. Et donc le passé historique de mon père.
Oui, merci Mouloud de cette représentation. On comprend.
Et puis il est revenu souvent avec les années. Il y a un souvenir sur les événements de ces années de lutte pour l'indépendance et de tout ce que nous avons appris par la suite après l'indépendance, mais pas du tout dans les livres d'histoire, comme les massacres dans le Constantinois lors de la commémoration du 8 mai 45. C'était autre chose en Algérie, dans le Constantinois, bien sûr, avec les massacres à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où ont participé les nôtres, c'est l'armée d'Afrique. Les massacres de la marche organisée par l'FLN le 17 octobre 1961, et puis tous les assassinats des jeunes maghrébins.
Merci Mouloud pour cette transition qui est parfaite à mon sens, puisque justement on voulait que Karima nous présente un petit peu ce contexte qui a mené à la marche de 83.
Vous m'entendez ? Oui, oui.
Ah, d'accord. On s'est conscientisé par rapport à la ségrégation subie, et donc nous avons fait cette association de Najma. Et l'objectif de Najma était de poser la question de la citoyenneté, d'identité, et comment vivre dans ce pays tout en témoignant d'une une certaine originalité socioculturelle différente et attachée à des racines dignes et respectables, sans être stigmatisé ni ostracisé. Donc devenir citoyen quand on est issu d'immigration et que l'on vient d'un milieu défavorisé. Donc nous avons bien sûr été très tôt soutenu Radio Gazelle, ainsi que d'autres structures marseillaises qui soutenaient les mouvements d'émancipation des jeunes de la période post-coloniale. C'est ainsi que dès le départ, il y a la marche en 83, suite à l'assassinat par le CRS Taïfer du regretté Hawali, alors que son nom, à l'âge de 17 ans, à la cité flamande le 18 octobre 80. Nous avons soutenu et popularisé cette marche sur Martigues, le pays de Martigues. Et nous avons tenu donc à rendre hommage à la mémoire de cet adolescent dont le meurtre avait participé au déclenchement de la marche. Et nous avons invité sur Port de Bouc la troupe de théâtre amateur qui avait monté la pièce Ya Olidi. Il y avait Moussa Massé qui débutait dans cette pièce.
Mouloud, voilà. Est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très bien.
Très, très bien. Parce que tu as enchaîné un petit peu sur... c'est bien une belle pratique de la présentation. On va peut-être laisser Karima continuer à nous contextualiser tout ce qu'il y avait un petit peu à la marche. Mais tu as bien commencé, tu as bien introduit le sujet. Merci beaucoup, Mouloud.
Allez. Je vous en prie, je suis avec vous.
Super.
Oui, donc, comme Je suis la passeuse de mémoire, donc je vais faire quelques allers-retours un peu entre l'histoire et la mémoire ou les mémoires. Donc je vais commencer par, malheureusement par une date emblématique qui est le 25 août 1973 ou l'année 1973. Donc le 25 août 1973 à Marseille, le meurtre d'un conducteur de bus par un immigré algérien fait les titres des quotidiens. L'éditorial de Gabriel Domenech dans le Méridional met le feu aux poudres en appelant à la vengeance. Pendant plusieurs mois, des meurtres vont être commis dans le sud de la France. Une seule et même cible, des Arabes. Cette chasse à l'homme atteint son paroxysme le 12 décembre 1973 avec l'attentat du consulat algérien. Bilan de cet été meurtrier, 50 victimes. Mais revenons quelques années avant. L'Algérie, colonie française depuis 1832, accède à son indépendance après une très longue guerre de 7 ans en 1962. La plaie reste ouverte, particulièrement pour la France qui perd une de ses plus grandes colonies. Deux événements, de mon point de vue, vont alimenter cette chasse meurtrière à l'arabe. Les pieds noirs sont rapatriés vers la métropole, dont un grand nombre s'installe dans le sud de la France. Parmi eux, des nostalgiques de l'Algérie française. Autre point historique, la nationalisation des hydrocarbures par le gouvernement algérien en 1971, très mal vécue par la France, alors détentrice pour moitié de ces hydrocarbures du sol algérien. À cela, il faut ajouter les nouvelles lois qui régissent le séjour des travailleurs immigrés. En 1972, les circulaires Marcellin-Fontané impose aux immigrés d'avoir un contrat de travail et un logement décent pour pouvoir rester légalement sur le territoire français. Cette volonté de réguler l'immigration s'explique par la fin des Trente Glorieuses et la hausse du chômage. C'est aussi le moment de la naissance du Front National. L'un des groupuscules à l'origine de ce parti, les néo-fascistes d'ordre nouveau, lance à ce moment-là une campagne contre l'immigration sauvage, avant d'être dissous à l'été 1973. Je voudrais parler aussi que cette question des crimes racistes, c'est une question qui habite les habitants et surtout les acteurs associatifs du Grand Saint-Barthélemy. Pour preuve, en juin-juillet 2013, le Centre social Agora et le comité Mamega organisent une rencontre-débat dans le cadre des banquets de Fanon sur les crimes racistes. Rachida Brahim, alors doctorante en sociologie et salariée du centre social, anime cette rencontre. Et pour cause. Le sujet de thèse de Rachida Brahim porte sur les crimes racistes. De 1973 à 2013. Après sa soutenance, elle sortira un livre, « La race tue deux fois », une histoire des crimes racistes en France, paru aux éditions Sileps. Ça a été l'occasion aussi de diffuser un documentaire du journaliste Mourad Aïtabouche et de Hervé Corbière, Marseille 1973, La ratonnade oubliée, qui est diffusé comme support au débat. Je vais un peu vite, mais ça sera l'occasion de revenir, notamment Lily parlait de la continuité des crimes racistes qui ne se sont pas terminés avec la marche de 2003, malheureusement. Mais je voulais terminer, puisqu'on parle aussi de notre histoire personnelle, comme l'a fait Mouloud. Ma petite histoire, 1973, j'ai 12 ans et j'ai un souvenir très très fort. Mon père, très très anxieux, très angoissé, ayant effectivement pris connaissance des crimes racistes en direction d'hommes arabes ou supposés arabes, interdit à son fils unique d'aller travailler, lui disant « s'il y en a un qui doit passer, c'est moi, c'est pas toi ». Je veux dire, quand on grandit avec cette image et ces mots, il est évident qu'il est de notre devoir, de mémoire, de rappeler ce qu'a été la France, que continue à être la France, en tout cas comment elle perçoit ses étrangers, jusqu'à, y compris malheureusement, la police a assassiné des jeunes issus de l'immigration postcoloniale.
Saïd qui voulait réagir.
Je disais, pour revenir au contexte, les années 70-80, c'est une période intéressante du côté des personnes d'origine maghrébine qui se posaient une question du retour, puisque je pense que tout le monde sait que la plupart des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller travailler ailleurs, leur projet réel, c'est de travailler un certain temps pour avoir assez d'argent pour revenir se réinstaller au pays. Et donc ceci a duré pendant des décennies. Et c'est seulement dans les années 70-80 que ce qu'on a appelé à l'époque le mythe du retour a commencé à reculer, c'est-à-dire que les gens commençaient à se dire « bon, je vais rester ici, j'ai vécu ici, j'ai étudié ici, donc je vais rester ici ». Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la même époque où cette prise de conscience se faisait, on avait des jeunes qui étaient expulsés, y compris des jeunes qui étaient nés en France. À l'époque, le droit du sol, ça fonctionnait plus ou moins. Et donc, moi-même qui habitais à Bassens, j'ai vu des jeunes de mon quartier donc, qui, normalement, étaient français, mais qui, comme ils n'avaient pas encore fait les démarches pour avoir la carte d'identité française, se sont retrouvés expulsés dans leur pays d'origine, donc souvent l'Algérie, la Tunisie aussi. Et cette période-là, c'est une période un peu folle, c'est-à-dire où les gens se demandaient ce qui se passait. C'est-à-dire à la fois, certains se disaient, bon, commencez à dire très difficilement, je suis d'ici, je suis français. Et en même temps, ils voyaient quelqu'un de leur entourage ou de la famille qui se retrouvait expulsé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu, en 1980, une grève de la faim contre l'expulsion des jeunes issus de l'immigration. Et comme par hasard, ceux qui ont été à l'initiative de cette grève-là, ça s'est passé à Lyon, ce sont les mêmes personnes qui ensuite ont été à l'initiative de la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est-à-dire Christian Delorme, donc, qui était un prêtre catholique, et Jean Costil, qui était un protestant, et beaucoup d'autres associations, parmi lesquelles la Ligue Droits de l'Homme, la Fédération des ASTI, Association de solidarité aux travailleurs immigrés, etc.
Mais il y a eu beaucoup de commissions pour la justice, tout un travail qui s'est fait aussi sur les quartiers. C'est important de pouvoir rappeler que les jeunes des quartiers, les jeunes issus des diverses immigrations, se sont mobilisés pour essayer de pouvoir, pas conscientiser les masses comme diraient certains, mais pour apporter un plus pour qu'il puisse y avoir une réflexion qui soit un peu plus collective et partagée. Réfléchir sur la situation et ne serait-ce à l'époque... Saïd, tu as parlé de cela, mais on appelait ça aussi, il y a eu la question de la double peine qui était aussi posée à ce moment-là de façon extrêmement forte auprès de certains jeunes, comme tu le disais, nés en France, mais par rapport à certains délits, peut-être ou pas, mais qui étaient carrément expulsés. Non seulement faisaient une peine de prison puisqu'ils étaient condamnés ici, mais de surcroît, une fois qu'ils avaient fait leur peine de prison, ils étaient expulsés soit en Algérie, soit en Tunisie ou ailleurs, mais ils ne restaient pas en France. Ce qui a créé pas mal de problèmes au sein des différentes familles, parce que ce sont des sujets qui étaient extrêmement douloureux, d'autant plus que ces jeunes qui étaient expulsés et connaissaient plus la France et ne connaissaient absolument pas le pays d'origine de leurs parents. Donc, il y a eu différentes mobilisations, différentes commissions pour la justice, la rencontre avec des policiers, des rencontres, police et jeunes, justice, tout ça. Il y a eu tout ce travail qui a été fait et entamé. Et tu pourrais rappeler un peu tout ce travail qui a été fait, sachant qu'il y avait aussi un centre de formation, entre autres, que l'on appelait la réforme, qui a permis malgré tout de rencontrer pas mal de partenaires qui ont contribué aussi.
Oui. Oui, donc je ne sais pas d'où repartir. Toute la question, c'était l'idée de la marche, d'où elle vient. Donc c'était en 83.
Oui.
En 83, donc il y avait. C'était une période où donc il y avait eu en 81 l'élection de François Mitterrand, le premier président avec un gouvernement de gauche depuis très, 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 très longtemps. Et donc les choses semblaient devoir s'améliorer, notamment les expulsions de jeunes issus de l'immigration ont été suspendues par ce gouvernement. Et il y a eu la création des radios libres c'est à ce moment-là que nous avons, entre autres, avec Jean-Marc et d'autres, créé Radio Gazelle. Maintenant, si on parle de la marche elle-même, dans la région lyonnaise, donc Vaulx-en-Velin, il y avait un certain nombre de situations sociales difficiles, et la police avait un traitement des populations qui était tout à fait différenciée, c'est-à-dire que dans des endroits où les gens étaient dans certains milieux sociaux et ethniques, ça se passait normalement, à peu près normalement. Et par contre, dans les quartiers populaires, comme dans Omenguet, ça se passait mal. Et donc, précisément, ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune animateur, Toumi Jaïdja, qui s'est interposé entre les policiers qui avaient un chien et un jeune du quartier, s'est retrouvé avec une balle. Donc le policier lui a tiré dessus, alors que c'était un animateur qui voulait juste éviter les incidents. Il s'est retrouvé à l'hôpital, et c'est au moment où il est à l'hôpital qu'il y a eu des rencontres avec des personnes, notamment Christian Delorme, donc un prêtre catholique, et ils ont discuté, parce qu'à l'époque, il y avait le film sur Gandhi. Gandhi, c'est pour ceux qui ne connaissent pas bien, donc ça se passait en Inde, c'est quelqu'un qui a fait une lutte très très forte pour la décolonisation du pays, mais il a fait ça sans armes, c'est-à-dire avec la non-violence. Donc cette idée de non-violence a commencé à germer. Donc un certain nombre de gens qui étaient autour de ces collectifs étaient d'un mouvement qui s'appelle le MAN, Mouvement Alternatif Non-Violent. Et donc c'est à partir de cela que l'idée a commencé à germer de dire... suite aux crimes racistes, suite aux violences policières, aux crimes policiers, on va faire quelque chose pour que la France se rende compte qu'elle n'est plus la France des années 50-60, qu'elle est une France plurielle.
D'autant plus, il faut rappeler qu'il y avait aussi des révoltes dans les banlieues, ce qui a permis un peu d'une prise de conscience qu'il y avait un problème. Peut-être que cela renvoie aussi à la création de tout ce qui concerne le développement social des quartiers. Parce qu'il y a eu toutes ces violences policières ont généré des violences et des réactions de la part de la jeunesse lyonnaise et un peu partout au fur et à mesure, ce qui a créé réellement une prise de conscience des uns et des autres. Je pense que peut-être avant de poursuivre, sauf si Mouloud souhaite intervenir, il n'y a pas de problème pour ajouter certains éléments concernant le démarrage de cette marche. Mouloud, es-tu
à l'écoute ? Oui, j'écoute.
Oui, je voulais savoir si tu voulais poursuivre un peu l'origine, rappeler un peu l'origine de cette marche. Comment tu as eu l'information? Comment es-tu arrivé à Marseille pour pouvoir joindre un peu début de mobilisation?
Peut-être avant que Mouloud nous parle de comment est-ce qu'il a entendu parler de cette marche et qu'il joigne Marseille, mais comment déjà Lyon a contacté Marseille et le reste de la France? Est-ce que tu as des informations? Et si Mouloud les a, il peut nous les donner aussi.
Je vous disais tout à l'heure que en fait le contact que j'avais surtout c'était avec Saïd, parce que bon, moi j'étais abonné au journal Sans Frontières, et c'est un journal qui m'a ouvert en fait il me ressemblait beaucoup, et donc c'est à cela que je me suis très fortement attaché à cette nouvelle. C'était une forme de militantisme pour moi, nouveau, hein, c'était plus les anciens archétypes sur les partis politiques, gauche, c'était nouveau, quoi, c'est un militantisme nouveau pour moi. Et je m'y retrouvais totalement. Mmh. Et donc, suite à mon histoire et au contact que j'avais sur Marseille, il y avait bien sûr, je ne sais pas si je suis en rapport avec au niveau de la chronologie dans l'émission, mais j'ai toujours eu des informations avec, donc je disais, la lecture Sans Frontières, comme source phénoménale d'informations sur le bouillonnement dans l'immigration et sur le monde, mais pas que le monde postcolonial, dans le monde, la vision, une vision de nous, voilà, de nous, et des informations aussi.
Oui, justement, si je reviens sur la chronologie, donc je rappelle donc les Omenguet, donc Toumi Jaïdja à l'hôpital, le projet de faire une marche pour rencontrer la France, comme il disait.
Et tout ça m'a permis à moi de transmettre de Marseille vers Martigues toutes les informations et que j'ai diffusées. Hein. Je ne voudrais pas parler de ruissellement parce que c'est une connerie immonde cette histoire-là de ruissellement.
Mouloud, tu m'entends?
Des fois, non.
Oui, parce que là j'étais en train de rappeler un peu comment ça s'est passé concrètement. Donc, en 83, une fois que l'idée de faire une marche a démarré à Omenguet, on a commencé à le groupe des Mengat a commencé à aller un peu partout dans des villes. Et il est venu à Marseille puisque l'idée c'était de faire une marche qui fasse en gros un périple du nord, du sud au nord. Et donc c'était évidemment Marseille qui était choisi comme porte d'entrée. Et donc on a exact. Fait une réunion avec l'équipe qui était venue des Mengat. Il faut dire d'une chose, c'est que les gens du collectif de départ de Mengat et de Lyon ont été très persuasifs parce que c'est vrai que quand on y pense, si quelqu'un vient vous dit bon, on va faire une marche de Marseille jusqu'à Paris ou jusqu'au nord de la France qui va durer un mois et demi, c'est, je veux dire, a priori, on aurait pu se dire bon, c'est n'importe quoi, etc. Mais c'est vrai que la capacité de persuasion des gens du collectif de Lyon et de sa banlieue a été énorme. Et donc, la réunion s'est faite au 26 Boulevard des Dames. Dans les locaux anciens de la CIMAD. CIMAD, une association protestante qui, entre autres, aide les immigrés. Donc j'ai participé à cette réunion avec un certain nombre d'associations de Marseille et avec les gens de Lyon et Mengat. Et assez rapidement, on s'est mis d'accord sur le point de départ qui devait être la Cayolle. Pourquoi la Cayolle ? Parce que malheureusement, peu de temps avant, il y avait eu un attentat à la bombe dans lequel un enfant gitan était mort. Et donc, symboliquement, ça nous semblait important de partir de là. Et ensuite, la décision était bien sûr, de traverser tout Marseille, de passer donc, la Cayolle dans le quartier sud à Marseille-Nord, c'est-à-dire jusqu'au Flamand.
Mais il y a eu une bonne caisse de résonance qui fut Radio Gazelle, parce que créée en 81-83, Radio Gazelle fonctionnait, rien qu'avec majoritairement des militants, ce qui a permis d'avoir aussi un lieu de parole et d'expression avec beaucoup d'interventions justement des membres du collectif. Donc je pense, Lily, si tu m'autorises, à demander à ce que nous puissions faire une autre pause musicale.
C'est exactement ce que j'allais proposer. Donc on fait une nouvelle pause musicale avec un morceau de Yannick Noah intitulé « Angela ».
Hey Sticks, what's up?
Good morning, boss. I got your book.
Cool.
We now go to City Hall where Angela Davis is speaking.
We aren't going to put up with their nonsense, with their irrationality, with their murder any longer. We have to show them that they have every right to be afraid.
Speaking live, that was Angela Davis on the steps of City Hall downtown. The weather in Harlem today will be in the high 60s with a chance of rain.
L'Amérique est figée, un ange proteste, les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent. Un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King. Une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine, panthère noire traquée. Le son d'intolérance, cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela, my home is your home. Oh Angela, Angela, you know you never walk alone. En novembre 2008, un soir à Chicago, les États qui s'unissent échangent de peau. Si le monde s'incline et nous parle de chance, ce soir Angela, c'est à toi que je pense. Oh Angela, Angela.
Oh
auditeurs, nous sommes toujours en direct des échos du Grand Saint-Barthélemy avec Karima, Saïd, Jean-Marc. Pour l'instant, nous ne sommes plus en ligne avec Mouloud, mais nous le rappellerons un petit peu plus tard. Donc, hors onde, je ne sais pas si c'est comme ça que je puis m'exprimer, mais Jean-Marc disait qu'on participait un petit peu au lancement de la marche des certains collectifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Saïd ?
Oui, donc une fois que la décision a été prise, donc, j'ai parlé de la réunion qui a eu lieu à Marseille, et mais évidemment, la même réunion s'est passée à Lyon, s'est passée à Paris, etc. Donc il y a eu des accords pour que les marcheurs puissent être accueillis. Donc là, je veux dire concrètement comment ça se passait. Donc les marcheurs qui, au début, étaient à peu près 17-18, et ça a fini un peu plus à plus de 20. Donc ils arrivaient dans une ville, et c'était les gens de la ville qui devaient les accueillir pour dormir chez eux, mais aussi pour faire des réunions publiques, pour faire des meetings, etc., et pour parler des questions primordiales de l'époque, bien sûr la question du racisme, bien sûr la question des violences policières, etc. Et donc, concrètement, pour Marseille, ça c'est le premier jour, donc c'est le 15 octobre, on a fait, donc je disais tout à l'heure, on est parti de la Cayolle, on a traversé tout Marseille pour arriver au Flamand. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait déjà un peu d'engouement qui commençait à faire jour au moins ici. Et le lendemain, les marcheurs sont partis de Marseille jusqu'à Aix, c'est-à-dire à peu près 20 km. Donc en gros, c'était ça le tarif. Chaque jour, les marcheurs faisaient à peu près 20 km pour aller d'une ville à une autre. Et ensuite, ils rencontraient des gens, etc., etc. Et après Marseille, c'était Aix, et après Aix, ça a été Salon. Et ça a continué comme ça, à Vienne, à Lyon. C'est à partir de Lyon que les choses ont commencé à vraiment prendre, c'est-à-dire qu'au début, les médias, il y avait quelques médias, que la France 3, la Provence, qui avaient fait des petits articles, des petites interviews. Mais à partir de Lyon, les choses ont commencé à devenir très publiques. Il y avait un engouement très certain, c'est-à-dire que les médias se sont réveillés. Et c'est à cette époque-là qu'il y a eu un événement tragique qui a fait aussi que beaucoup de gens commençaient à réfléchir aux questions que l'on posait. C'était un jeune, Habib Grimzi, qui était dans un train Bordeaux-Vintimille et qui a été jeté du train par des légionnaires qui avaient bu. Donc un crime résistant de plus, et qui s'est fait vraiment pendant l'événement de la marche. Et ça fait que beaucoup de personnes en France qui ne connaissaient pas ces questions de racisme, qui croyaient que le racisme ne tuait pas, etc., ont été bien obligés de se rendre à l'évidence que le racisme tuait. Donc à partir de ce moment-là, beaucoup, beaucoup de gens ont commencé à se mobiliser. Pour Marseille, donc Jean-Marc disait tout à l'heure qu'il y a, entre autres, la radio qu'on avait fondée ensemble, Radio Gazelle, était un peu le point de le pivot qui donnait les informations. Bon, c'était évidemment une époque ancienne, il y a 40 ans. On n'avait pas de portable, donc, pour faire des reportages. On faisait comment, Jean-Marc ? Tu racontes ?
C'était épique. Dès qu'il y avait un téléphone avec les pièces, on téléphonait pour pouvoir communiquer les informations en direct. Mais c'était une période qui a été épique. Certes, il y avait Gazelle, mais néanmoins, il faut rappeler qu'il y avait aussi Galère, une radio qui était là aussi, qui était concurrente, mais néanmoins amie, puisque nous partagions certaines idées et certains idéaux. Quoi. Bon, donc, ce qui est indéniable. Donc, le relais se faisait et l'information pouvait circuler pour jour par jour, parce que chaque marcheur, à chaque étape, nous appelait et nous les diffusions aussi en direct avec notre ami, notamment Ahmed, paix à son âme, Ahmed Issaoui aussi. Ce fut une période aussi très, 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 très active en ce sens-là. Radiophonique 100 ans, et cette marche aussi, elle fut... Parce que ce que tu disais, effectivement, au fur et à mesure, plus il y a eu de gens et d'étapes au fur et à mesure, des gens se sont mobilisés pour pouvoir alimenter et progresser avec ces marcheurs.
Quand on parle de Radio Gazelle, c'était pas seulement le média, c'était aussi une association, puisque nous...
Militante, hein, donc de bénévoles.
Oui. Et donc nous étions... ici à Marseille, autour de Radio Gazelle, en gros, les correspondants des gens d'autres régions. Ce qui était vraiment fort, c'est qu'on s'est rendu compte, chaque fois que les marcheurs se retrouvaient quelque part et discutaient, on avait à peu près les mêmes questions qui se posaient au niveau des enfants d'immigrés. Les mêmes questions se posaient ici à Marseille, à Lyon, à Avignon, etc. Et c'est vrai que ça a permis de faire en sorte que les gens ne se sentent pas seuls, ne se disent pas « Tiens, ici, il y a du racisme, ici, il y a ceci, cela. » Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que la question du logement, la question du racisme, des crimes racistes, etc., c'était visible un peu partout de la même manière.
Alors, en vous entendant parler, moi qui suis née justement en 83, j'ai du mal à imaginer qu'à l'époque, on puisse tuer des gens de manière impunie, entre guillemets. C'est quelque chose qui me fait totalement halluciner. Bon, même si maintenant, quand même, je le sais maintenant. Mais je pense à nos jeunes auditeurs et je pense aux enfants que nous avons aussi présents. Peut-être qu'on va laisser la parole brièvement à Nazad. Viens, viens, Nazad, viens, mon grand. Je vais te poser une petite question, n'aie pas peur, il n'y a pas de piège. T'as entendu ce qu'a dit Saïd un petit peu ? Est-ce que t'as compris ce qu'il a dit ? Oui, comprendre, je sais que tu comprends. Est-ce que toi, tu imaginais que c'était possible, ce genre de choses-là ?
Moi, j'imaginerais pas qu'on puisse tuer quelqu'un juste parce qu'il est différent. Et je trouve ça stupide. Très stupide, même.
Mais tu te rends compte un petit peu ? À l'époque, on pouvait tuer des gens parce qu'ils étaient différents. Et le problème, c'est que limite, on risquait rien. Karima dit en aparté, c'est toujours le cas. Ça te fait réagir ? On réagira plus tard. Merci,
mais,
Nazad.
Mais ce qui est bien, malgré tout, tout récemment encore, il y a eu Ibrahim Ali. Hein, donc, ces jeunes-là ont entendu parler d'Ibrahim Ali, puisqu'il est de cette génération, qui a eu beaucoup de mouvements autour du nom de l'attribution de nom de rue d'Ibrahim Ali, ce jeune Comorien qui a été assassiné à l'âge de 16 ans. Comme les jeunes aussi du Grand Saint-Barthélemy, parce qu'il y a eu effectivement la Rouari, mais aussi il y a eu Boudjellal aussi, même âge quasiment, qui ont été assassinés dans de telles circonstances aussi. N'est-ce pas, Karima ?
Oui, non, mais moi, juste par rapport à la question que Lily a posée à ce jeune garçon, c'est que malheureusement, les crimes racistes, leur majorité reste impunie, et c'est ça qui est quand même plus que troublant. J'ai fait tout à l'heure référence au livre de Rachida Brahim, donc qui est sociologue, qui a tiré de sa thèse le fameux livre « La race tue deux fois ». Et pourquoi ce titre ? Il est extrêmement explicite. C'est que la race tue deux fois parce qu'on meurt parce qu'on est noir et arabe, ou noir ou arabe, et on meurt parce que la justice ne rend pas justice. Et c'est donc une double mort pour ces jeunes garçons à qui on a enlevé la vie prématurément. Et ces crimes continuent. Alors, il me semble que celui d'Ibrahim Ali a quand même été sanctionné par la justice, mais la majorité des crimes racistes et des crimes policiers, aujourd'hui, restent largement impunis.
Et tout à l'heure, Karima parlait de l'attentat contre le consulat d'Algérie. Bah, c'est plus qu'impuni, c'est-à-dire que personne n'a jamais été arrêté pour ça. Alors qu'on savait qu'à l'époque, il y avait des organisations d'extrême droite, Ordre Nouveau, Occident, qui tuaient, qui étaient un peu les enfants de l'OAS, c'est-à-dire les assassins qui, en Algérie, ont terrorisé les gens, ont tué beaucoup de monde. Donc c'est leurs descendants ont continué en France. Et donc ça veut dire que, y compris dans la police, il n'y a jamais eu de volonté. Quand je dis police, ça veut dire l'État, qui a de volonté de retrouver les assassins.
Oui, carrément.
Non, je voulais, parce que forcément, la mémoire est souvent interpellée quand elle entend certaines choses. C'est juste pour dire que les locaux qu'occupe actuellement le Centre social Agora, donc une ancienne école, ce qu'on appelait l'école mixte des garçons, ont connu notamment un triste enseignant qui a fait partie du SAC. Le SAC est
d'action civique, voilà, effectivement.
Qui dépendait de l'OAS, les enfants de l'OAS, et ces jeunes, ces hommes aujourd'hui, parce que ce sont des hommes, mais ils se souviennent très bien des propos racistes, de la violence, des propos racistes qu'avait cet enseignant en direction de ses élèves. Et d'ailleurs, il a fait partie de ce qu'on appelait la tuerie d'Auriol, pour ceux qui s'en souviennent. Mais voilà. Donc c'est pour dire que oui, y compris malheureusement notre territoire. Est concerné par à la fois la question des crimes racistes et de l'impunité de ces crimes racistes.
Pour revenir un peu à la marche, parce qu'elle retourne, c'est qu'il y a eu ce mouvement, tu as bien resituer un peu le contexte avec l'agrégation au fur et à mesure de personnes, d'habitants qui se sont mobilisés pour permettre et le parcours qui puisse s'effectuer dans de très bonnes conditions avec les échanges que tu as. Mais au niveau local, par exemple sur Marseille, à l'approche de Paris, comment les choses se sont-elles organisées sur Marseille, par exemple ? Il y a eu beaucoup d'associations qui se sont structurées, qui se sont joints à ce mouvement ?
Oui, à partir de la fin novembre, les choses ont pris une ampleur assez énorme. C'est-à-dire que avant, on disait que le 3 décembre, c'était la fin, mais on se disait il y aura peut-être quelques milliers de personnes. Et donc, je rappelle qu'à la fin, c'était 100 000 personnes qui se sont rassemblées. Et ce qui veut dire que ce ne sont pas 100 000 Parisiens qui ont fait ça, c'est dans toutes les villes, donc y compris ici dans ces quartiers-là de Fontvert, Saint-Barthélemy, etc. Un certain nombre d'associations locales se sont organisées avec des centres sociaux, avec des associations locales pour faire en sorte de louer des cars pour monter à Paris pour ce 3 décembre. Donc ça a été assez rapide. L'organisation de la montée à Paris, alors qu'on se disait bon, ça va être compliqué, etc. Mais ça a été tellement rapide, il y avait une volonté de beaucoup de gens qui se disaient tiens, pour une fois, en gros, on parle de nous. Nous, c'est-à-dire qui ? C'est-à-dire à la fois des jeunes des quartiers populaires, les familles des quartiers populaires, mais aussi des jeunes issus de l'immigration. Et donc, pour une fois qu'on parlait d'eux, donc les cars sont remplis très vite, évidemment, dans certains endroits. Les cars ont été remplis à fond, on n'a pas pu prendre tous les gens qui auraient voulu y aller.
Merci. Alors, je vois dans le déroulé que mon cher frère Jean-Marc souhaite dédicacer un morceau d'un groupe marocain, Nassel Rewen, à certains amis.
Oui, effectivement, amis IES, puisque ça rappellera certains souvenirs, n'est-ce pas, Saïd ? Notamment, c'est l'association des femmes maghrébines en action. Entre autres.
Donc voilà, on se lasse une nouvelle pause musicale avec Nassel Rewen, Sabra et Chatila.
أشرب مباراه قلبك يكون غيظان كاوياه الحبرة بمسامر كل قمري الشيوخ بالسروج هم القوام ويطلعوا بالزز يجربوا الركبة وانت يا حالي يا ناس قيم مشيان ضاع شغلك ولا في يومك يربح بين الويع حروم والهان وتنوح نواح وكفخر شحال من صحاب زرتهم قسمة ونجوم وحضيت جمرهم لا يعود ينبق وغير نطغر من حتوني بكل دموع ويغيروا حالي ولي وجربة بعد الربحة يصيروا دفحات بسموم كالطيور يخطفوا ويطيروا بزربة كالقطوط تموك وعلق وطعام تعوم كالديوك تعرش وتنقب شحال من خليلة تهانوي تهدوم وحين وعبر وحين نلقاها عطبة غير يقل مالي وترجع ومن بعد العشرة معاها تصير كذبة. بنفايق ليا وانا بين مغروب وغير نسهر 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 وتغير غيران كبا كل فعات واللي فيها نشوم هازان يذهب وتسنى تترمى غاضني بالقسام في الزمان مغموم لا حقلب وفسارة المعارك يتخبى وحلفت ليام بعدا بوحدة بدوم
ضاربة. Bon, on m'a signalé que le morceau, rien que l'introduction, durait une heure. Donc, on va vous réécouter ça à la maison. Je répète, c'est Nassel Rewen, Sabré Chatila. Donc, on est toujours sur les ondes de Radio Galère pour les échos du Grand Saint-Barthélemy. Et puis, cette chanson, Jean-Marc ne l'a pas mise là au hasard. Donc, Karima ne veut pas prendre la parole là-dessus. Mais Saïd, tu es prêt à nous expliquer un petit peu ce que raconte cette histoire et pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cette émission-là?
Bon, la chanson originelle, c'est terrible, c'est ce qui s'est passé au Liban, quand des Palestiniens ont été massacrés dans un camp, qui vivaient dans un camp, déjà c'était des exilés depuis très longtemps, depuis des décennies, et qui ont été massacrés par des falangistes, et qui avec le soutien, avec la protection d'Israël, et donc c'est quelque chose de terrible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la période de la marche, le refrain de la chanson a été repris pour les luttes ici de l'immigration. Et donc, entre autres, c'est l'association des femmes maghrébines en action qui avait changé les paroles de cette chanson pour garder toujours une idée de lutte, mais plus du tout sur la même question.
Et de résistance.
Finalement, je veux prendre la parole, mais c'est pour dire que la question palestinienne, c'est quand même pour notre génération. Un peu l'archétype de ce qu'on appelle la hogra, l'injustice suprême, parce que nos parents nous en ont parlé et que, quelque part, nos engagements sont venus à la fois de l'histoire coloniale, et particulièrement, bien sûr, de l'histoire algérienne, mais aussi de la question palestinienne. C'est pour ça que Sabra et Chatila, pour un certain nombre d'entre nous, mais pas que, 67, 73, 82, si on s'intéresse, 48 avec la Nakba, si on s'intéresse à la question palestinienne, malheureusement, c'est une succession d'injustices validées en plus par un certain nombre de pays au niveau international, qui fait que nous, enfants d'immigrés, ayant subi un certain nombre de discriminations, particulièrement nos parents, mais nous aussi, on est sensibles à cette question. Et ça ne m'étonne pas que ça ait été un peu la chanson fétiche de ces jeunes femmes.
Oui, à l'époque aussi, Gazelle, c'est un média, donc il y avait cette ouverture sur le monde, hein, cet esprit internationaliste, pourrions-nous dire, et parce que la situation en Afrique du Sud et divers pays, nous nous sentions aussi concernés, tant la Palestine, la cause palestinienne, que la lutte contre l'apartheid et bien d'autres pays. Donc pour revenir à la marche, alors, il y a eu cette organisation de bus, de militants, non militants, mais des personnes qui étaient sensibilisées à cette problématique de racisme, de discrimination et surtout revendiquer l'égalité des droits. Mais rappelons, l'égalité des droits, qu'est-ce que ça signifiait, Saïd ?
Ben justement, c'était une lutte qui était... une lutte qu'on a déjà vue dans d'autres pays, pendant l'histoire des Noirs américains. Donc, c'est des gens qui disaient tout simplement ben, on veut avoir les mêmes droits que tout le monde et arrêter les discriminations. Donc, on a vu la longue lutte des droits civiques aux États-Unis, lutte qui n'est pas terminée. De la même manière, la longue lutte qui s'est passée ici pour l'égalité des droits est une lutte qui est encore à continuer pour essayer de changer les choses en profondeur.
Et arrivé à Paris, les marcheurs étaient combien ? Ils sont partis, ils étaient 20, 30, puis après, ils étaient combien de marcheurs à partir de Lyon, par exemple ?
À partir de Lyon, il y avait plusieurs dizaines de milliers, je n'ai pas de souvenir précis, et arrivé à Paris, c'est 100 000, et donc le fait que, que les choses ont beaucoup avancé, c'est que à partir de la fin novembre, même la mi-novembre, il y avait des gens qui venaient rencontrer les marcheurs, y compris des gens, des députés, des sénateurs, des gens du gouvernement, etc. Mmh. Et le 3 décembre, la marche a été reçue par le président Mitterrand pour montrer que c'était vraiment un événement important. Donc les marcheurs, une délégation des marcheurs, pas tous les marcheurs, ont été reçus. Et à l'issue de la rencontre avec le président Mitterrand, la carte de 10 ans, la carte de séjour de 10 ans a été généralisée. Donc je rappelle que pour les Algériens, elle existait déjà, puisque les Algériens ont bénéficié des accords d'Évian. Par contre, les autres immigrations n'avaient pas de carte de 10 ans, ils avaient des cartes de 1 an, 3 ans, renouvelables, etc. Très compliqué. Et là, ça a pu se faire. Par contre, une des revendications des marcheurs, et donc de tout l'autre, quand je dis marcheurs, c'est tous les gens, hein, c'est pas seulement les 25-30 qui étaient, c'était que les crimes racistes que la justice change en France. Et malheureusement, de ce côté-là, la réponse de Mitterrand n'a pas été claire du tout. C'était en gros de dire que la justice est libre et indépendante.
Oui, donc en termes de... Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un résultat qui pourrait être considéré comme positif, ou il n'y a que des regrets par rapport à tout ça en termes de résultats? Bon, parce qu'il y a eu 83, mais il y aura 84. Avec, au regard de la réussite de 83, il y aura une tentative de récupération en 84 à travers la marche de convergence 84.
Oui, en 83, donc ça a été une très très grande réussite, mais évidemment personne ne pensait que la France allait changer du jour au lendemain. Donc c'était un pas important qui avait été fait. En gros, ce qui me semblait très important à l'époque, c'était qu'une sorte de politisation nouvelle qui commençait à se faire jour. Donc beaucoup de gens qui, regardaient les trains passer, commençaient à se dire qu'ils pouvaient participer à faire en sorte que la lutte pour l'égalité avance dans ce pays. Donc c'est ça qui est très important. Évidemment, tout n'est pas devenu rose du jour au lendemain, ça se saurait sinon.
Donc 84, convergence, il y a eu la naissance d'un mouvement que nous avons énormément contesté, que nous ne reconnaissons pas non plus.
Ben oui, après il y a eu ce qu'on appelle nous la grande manipulation. Donc ce qui s'est passé là, c'était que des gens des quartiers populaires ont commencé à être visibles dans l'espace public. Et donc, un certain nombre de personnes autour de Julie André, Harlem Désir, etc., ont travaillé. En gros, la mouvance, c'est une partie du PS, à mon avis, la partie la plus droitière du PS, qui se sont dit qu'il ne faut pas laisser les quartiers populaires s'auto-organiser. Et donc, ils ont commencé, grâce à énormément d'argent donné par l'État, mais aussi parce qu'ils ont été très, très malins et ils ont réussi à faire en sorte que la main de SOS Racisme, ça devienne une sorte de symbole de fraternité, etc. Et du coup, beaucoup de gens se sont fait avoir, des artistes, des intellectuels, etc., ont commencé à soutenir cette association qui avait en fait pour vocation de couvrir ce qui s'est passé avant, de couvrir la marche de 83. Et bon, ils ont en partie réussi, mais c'est vrai que les moyens qui ont été distribués ont été absolument extraordinaires.
Oui, alors moi, c'est ce que j'appelle le grand hold-up commis par le Parti Socialiste, ou en tout cas une partie du Parti Socialiste. Le grand hold-up de la marche, ils craignaient qu'effectivement que les quartiers se politisent et s'auto-organisent, ce que le Parti Socialiste ne voulait absolument pas à l'époque. Et a permis à SOS Racisme, puisqu'il faut quand même les citer, une fenêtre de tir incroyable avec des médias qui leur donnaient cette visibilité extrême, des financements dont tu as parlé, Saïd. Et cette main, on peut lui donner une double signification, celle que tu as dite, mais je pense aussi, touche pas à mon pote, c'est toujours une façon, une gestion postcoloniale, de dire c'est quelqu'un qui va servir d'intermédiaire entre l'État ou les collectivités, les institutions et la population concernée, et qu'il n'y a pas effectivement de relation directe quand on conteste quelque chose. Et ça ne se touche pas à mon pote. Saïd Bouhmama, le sociologue, le dit bien, on a dépolitisé sciemment, le Parti Socialiste a dépolitisé sciemment ce qui se passait dans les quartiers populaires au profit d'une approche moraliste en disant « touche pas à mon pote ». Et on a vidé de la substance extrême. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce hold-up, la situation de nos quartiers ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce que les gens auraient pu, par la voie politique, inverser un certain nombre de choses. Et puis, on est passé à côté aussi du droit de vote pour les immigrés, qui était dans l'escarcelle des marcheurs.
Oui.
Et ça, c'est aussi un grand drame à la fois pour les travailleurs immigrés et leurs enfants.
Qu'est-ce qu'il est devenu des marcheurs, notamment ceux qui ont été reçus par François Mitterrand à l'époque? Est-ce qu'ils ont continué le combat, la lutte? Ou bien, s'étant sentis instrumentalisés, ils ont tout arrêté avec une forme de dégoût?
Oh ben c'est très divers. La première chose à rappeler, c'est que donc les marcheurs, pour moi, c'est tous ceux qui ont organisé d'une manière ou d'une autre. Donc, on a continué, puisque après 83, il y a eu les assises des jeunes issus de l'immigration, donc auxquelles on a participé en tant que l'association qui est autour de Radio Gazelle. Donc on a fait des réunions à Paris, à Saint-Étienne, etc. Donc il y avait un mouvement qui était très politisé, qui espérait avancer. Mais finalement, les choses n'ont pas pu aller très très loin, notamment parce que le SOS Racisme a réussi à étouffer pas mal de choses. Et après, il y a aussi le fait que c'était difficile à l'époque. Donc on n'est pas dans l'époque actuelle où on a des moyens de communication faciles. À l'époque, chaque fois qu'il fallait faire une réunion, il fallait aller à Paris ou à Lyon ou à Saint-Étienne. Ça voulait dire avoir beaucoup d'argent. Et comme nous, comme association, on avait très très peu d'argent, donc on avait beaucoup de mal à faire les choses. Peut-être que comme je vois que le temps tourne, je vais parler de ce qui se passe maintenant.
Voilà.
Juste pour dire que Toumi Diadia a été invité par le frère de Lawari Ben Mohamed il y a 2 ans de cela au Théâtre du Merlan. Voilà, donc il était présent et il a un peu rappelé ce qui s'était passé, ce que tu as fort bien dit, Saïd.
Avant de passer à ce qui se passe maintenant, les 40 ans, et avant de faire une pause musicale, il y avait une question quand même qui était importante, c'est que bon, vous avez été accueillis par le président de la République et tout ça, mais tout au long de cette marche, quelles ont été les réactions des policiers de la police que vous avez pu rencontrer?
Les choses se sont assez bien passé en général, puisque bon, je pense que l'idée était de faire une marche qui était pacifique et qui a été très entourée par beaucoup de gens, que des militants, etc. Les choses se sont plutôt bien passées. Donc la police, on en voyait rarement, qui a été là, c'était plutôt pour faire la circulation et tout, donc pour faire son travail, un travail normal de la police.
Oui, donc. Et à un moment donné, ici sur Marseille, il y a eu, me semble-t-il, un désir de pouvoir créer un collectif Mémoire en Marche, qui date de quand et le pourquoi du comment, et où en sommes-nous 40 ans après?
Donc le collectif Mémoire en Marche, c'est un collectif qui a été créé ici à Marseille, avec des gens qui sont issus de Radio Gazelle, et d'autres issus de la marche. Et donc, on a fait cette association beaucoup plus tard, c'est à peu près, je crois que c'est autour du 20e anniversaire, donc il y a 20 ans, pour continuer un peu un certain travail sur la mémoire. Donc, on a fait un certain nombre de conférences, de films, notamment à l'Alhambra, pour parler de questions qui nous importaient, qui nous importent toujours. C'est donc ce collectif existe toujours et c'est lui qui a lancé la préparation, donc au niveau Marseille, la préparation des 40 ans de la marche, puisque 83-2023, ça fait 40 ans. Donc le collectif Mémoire en Marche à Marseille a rencontré des amis de Saint-Étienne, de Lyon, etc., de Paris. Et donc la coordination est en marche maintenant. Et donc on est en train de travailler, d'ailleurs on en rencontre ce week-end, pour faire en sorte que non seulement on rappelle ce qui s'est passé il y a 40 ans, mais surtout pour dire, rappeler, comme l'a fait dans cette émission, le contexte d'il y a 40 ans, et aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que même si les choses se sont améliorées, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut continuer, pour lesquelles il faut continuer à combattre, puisque même si on a eu des avancées, le travail est très, très important, et c'est pour ça que nous, on est dans l'idée de la transmission. Donc, ce qu'on va faire là, c'est justement dire, bon, vous savez, il y a 40 ans, on a fait ceci, on a fait cela, mais pour dire, bon, vous avez encore du travail pour la jeunesse qui est là.
Donc, devoir de mémoire, devoir de transmission, mais pas entièrement de tout ce qui s'est passé, faire table rase du passé, bien au contraire. En termes de projection, parce qu'il faut absolument, pour mobiliser les jeunes et transmettre, qu'ils puissent avoir peut-être des projets d'avenir aussi pour eux. Quelles seraient les luttes à mener, les combats pour l'inégalité réelle et certaine ?
Les combats, c'est les combats qu'on a menés avant qui vont continuer. Maintenant, ce qu'on fait, on va essayer de réunir un certain nombre de jeunes pour que ce soit eux qui disent ce qu'ils vont faire, parce qu'il n'est pas question que les vieux que nous sommes leur disent, leur ordonnent de faire ceci ou cela. Les combats sont, même s'ils vont ressembler aux nôtres, leur manière de combattre, c'est à eux de définir, c'est pas à nous.
Oui, Lily, nous avons.
Oui. Nous allons laisser la parole à Nazad, oui.
J'ai une question à poser. Ça signifie quoi, mémoire en marche ?
Alors, mémoire en marche, merci pour cette question. J'en parlais tout à l'heure. C'est justement une association qui a été créée 20 ans après la marche, puisque donc, la marche, justement, c'est pour rappeler que c'est cette marche-là. Et mémoire, parce qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé il y a 40 ans, parce qu'il y a ces mémoires en marche 40 ans. Et donc, c'est un peu l'objet de l'émission. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'ai un beau t-shirt.
Oui. Ouais, j'ai le même, mais je n'ai pas pensé à le mettre aujourd'hui.
Mais à l'époque, c'était des crimes. Bon, par exemple, il y a la problématique, si on revient sur nos quartiers, à l'époque, c'était les crimes racistes qui tuaient nos enfants, nos petits frères et autres. C'était raciste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que, par exemple, en termes d'hypothèse de travail, peut-on réfléchir à l'amélioration des conditions de vie aussi des enfants, des jeunes aussi des quartiers face à ce sentiment? Je n'en sais rien, c'est une question, une piste pour effectivement que les jeunes de nos quartiers puissent se sentir sensibilisés et dire effectivement que cela fait partie du combat à mener, c'est lutter contre cette insécurité permanente sur nos quartiers.
Je peux répondre? Alors je peux répondre parce que ta question elle est intéressante parce qu'en 2013, donc on est toujours dans les dates historique de la marche, parce que c'était 30 ans après la marche de 83. Mais en 2013, en mars 2013, il y a ce que nous appelions le énième assassinat lié au trafic au mois de mars. Donc on est informé par texto, par téléphone, etc., que trois jeunes du 13e sont victimes d'un règlement de compte. Deux décéderont et le troisième est dans un état grave. Et c'est le énième assassinat. Et j'ai un souvenir encore très fort. On se retrouve au centre social de Malpassé. Et là, il y a des gens qui sont effectivement concernés, qui ont perdu quelqu'un dans ces questions de trafic, dans ces meurtres liés au trafic. Mais il y a aussi des personnes, effectivement, qui ont rappelé les crimes racistes. Et il y a eu un débat très vif, parce qu'au même moment où il y a ces deux jeunes qui sont tués, un troisième grièvement blessé, Il y a le neveu de Anifata Gelment qui est assassiné par un policier qui n'était pas en service ce jour-là. Et effectivement, le réflexe des militants de l'extrême gauche, c'est de se mobiliser pour qu'il y ait une manifestation pour condamner les crimes policiers. Et ces familles dont tu parles aujourd'hui, qui perdent, on l'a vu encore récemment ici, des enfants liés au trafic, sont dit, mais pourquoi vous faites une différence entre quelqu'un qui est tué par un policier et nos gamins qui tombent sous les balles de Kalachnikov? En fait, ils nous ont permis d'essayer de situer qu'est-ce qui se passe. Et on en a discuté longuement, disant qu'en fait, c'est les mêmes. Nous, en tout cas, à ACTE, mais ACTE est aussi partenaire de Mémoire en Marche, pour nous, c'est toujours le même processus de déshumanisation des jeunes des quartiers populaires, jusqu'à ce qu'ils arrivent à se tuer entre eux. Alors, les crimes racistes continuent. On l'a vu déjà en 2005 avec Ziad Ebouna, on l'a vu encore récemment avec le frère d'Assa Traoré. Donc, les crimes racistes continuent à sévir dans ce pays. Mais la nouvelle donne, c'est qu'aujourd'hui, autour des trafics, la question de nos jeunes qui tombent sous les balles de Kalachnikov, et en creux, on avait posé la question sociale, la question des conditions d'existence et d'un univers possible pour les jeunes, la jeunesse de ces quartiers, en dehors des trafics. Et d'une forme d'enfermement dans ces territoires.
Mais par exemple, au niveau d'une réflexion, c'est un terme d'égalité, égalité pour le droit au logement décent. Il y a différentes revendications de cet ordre-là aussi qui peuvent être défendues. Sur nos quartiers, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans des précarités plus ou plus et en situation administrative extrêmement difficile. Est-ce que ce ne sont pas des enjeux aussi auxquels le collectif Mémoire en Marche et les autres partenaires peuvent réfléchir, pas apporter des réponses, mais être porteurs de toutes ces doléances, de toutes ces revendications?
Oui, bien sûr qu'on peut prendre en charge tout ça, mais sachant que nous ne sommes pas très très nombreux, donc ce n'est pas nous qui allons tout faire. Sur la question des assassinats dans le domaine des stupéfiants, je pense que c'est important de parler du livre de Mohamed Ben Saada. Mohamed Ben Saada, donc un jeune de nos quartiers. Bon, il est un peu moins jeune. Et donc, il a écrit un livre en disant qu'il faut dépénaliser les drogues avec un contenu social, c'est-à-dire faire en sorte que les choses changent, puisque ce qui est terrible dans ce qui se passe, c'est qu'on voit sans arrêt des gens qui sont tués. Et que la préfecture, la police, etc., disent on maîtrise la situation, alors qu'on voit qu'ils ne maîtrisent rien. Donc malheureusement, qu'on le veuille ou non, on sait que la prohibition, ça ne marche pas. La prohibition, c'est quand on veut interdire pour l'alcool, c'était dans les années 30 aux États-Unis. Ils ont essayé avec des moyens énormes, il y a eu beaucoup de gens en prison, beaucoup de gens tués, etc., etc. Et finalement, la prohibition est arrêtée parce que c'était impossible d'arrêter, parce que et de la même manière, ici en France, les gens qui fument du cannabis, ils sont très 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 nombreux. Et donc, s'ils sont très 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 nombreux, on ne peut pas interdire. C'est comme l'alcool, c'est comme si on disait maintenant l'alcool on va interdire, alors qu'il y a beaucoup de gens qui boivent de l'alcool. Donc, ce qu'il faut faire d'après le livre de Ben Saada, pour résumer très très vite, c'est que les choses soient organisé, c'est-à-dire que si le cannabis était produit de manière officielle, ça veut dire au moins on sait ce que les gens vont fumer, alors que certains achètent du cannabis avec des taux énormes qui peuvent être très dangereux, des mélanges énormes. Et d'autre part, c'est le fait que ce soit socialisé, ça veut dire que l'État pourrait percevoir des taxes sur ça. Et c'est grâce à ces taxes qu'ils pourraient travailler sur la prévention, puisque évidemment, le cannabis est très dur pour les jeunes, puisque quand le cerveau n'est pas bien formé, c'est très très grave. Pour des adultes qui fument de temps en temps, c'est beaucoup moins grave, mais pour les jeunes, c'est très grave. Et donc l'idée de faire en sorte de trouver les moyens financiers pour s'occuper des jeunes pour éviter qu'ils fument, c'est ça, de l'argent bien employé, alors que la police qui passe son temps va encercler des cités un jour, deux jours, et puis quand ils partent, ça repart. On voit bien que c'est une impasse.
Je te remercie, Saïd. Jean-Marc.
Juste pour dire.
Non, parce qu'on va me dire que je ne fais pas les communiqués de presse, et je ne respecte pas, et c'est toi qui perturbes le cours de l'émission.
Je perturbe, j'ai l'habitude de perturber. C'était juste pour Saïd, pour qu'il puisse terminer. Quel est le programme jusqu'en décembre 2022?
Mais je voulais qu'on le fasse après la pause musicale pour pouvoir reprendre Mouloud que nous avons délaissé depuis près d'une heure. Une petite pause musicale avec Redemption Song de Bob Marley, et en même temps on rappelle Mouloud.
This music you going from the Beatles, a placard as one of the vehicles that helped to free the people from this chain and bondage of oppression.
Thank you. minutes after day to kite. From the bottomless pit. But my end was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you keep to sing another song of
Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Galère et Mouloud est à nouveau avec nous. Merci Mouloud d'avoir attendu avec nous. Alors, nous allons passer dans la dernière partie de l'émission qui concerne le programme justement de la marche et on va te laisser peut-être le mot de la fin sur cette fameuse marche de 83.
Le programme que nous avons mis en place sur la région Martigues, Port-de-Vaux, qui illustre Port-Saint-Louis, c'est-à-dire le pays de Martigues. Donc, nous avons contacté les médiathèques pour des films, pour passer, une intervention, si possible, d'un marcheur ou non, avec une exposition et un débat. Avec les médiathèques, nous avons mis en place un partenariat avec les cinémas art et essai locaux, c'est-à-dire Martigues, c'est le Renoir et la Cascade, et à Port-de-Bouc, c'est le Méliès. Donc avec films, débats, et sur certains, on a prévu repas avec musique. Bon, ça c'est simplement l'aspect un peu dilettante. Mais surtout, c'est la transmission de tous ces débats, la transmission des idéaux de la marche, de ce qui s'est passé, pourquoi les marches, le pourquoi des marches, comment la marche et comment après. Alors, je sais pas où. J'ai rien entendu, bien sûr, depuis le début que vous avez parlé, mais je pense que vous souhaitez savoir ce que notre programme. Alors, c'est les médiathèques avec, souvent en partenariat avec des cinémas, des salles art et essai, avec aussi les centres sociaux, les interventions dans des lycées, avec des profs d'histoire, justement, pour toujours transmettre cette histoire de la marche, des raisons, qu'est-ce qui s'est passé pendant la marche et qu'est-ce qui s'est passé depuis, les résultats escomptés, et avec l'actualité, bien sûr, qui est étrangement ressemblante à ce qui s'est passé au niveau violence sur les populations africaines ou arabes, d'origine arabe. Donc, on est toujours dans la transmission avec un programme qu'on a voulu le plus le moins mal élaboré, parce que c'est difficile à les propositions qu'on fait entrent en conflit avec la situation politique qui est d'avoir peur par rapport à l'extrême droite. Donc c'est très difficile, le courage n'est pas très grand en ce qui concerne les volontés politiques. Voilà, pour résumer un peu.
Je te remercie Mouloud. Je pense qu'on va te contacter après l'émission pour avoir certaines dates et on les mettra à disposition de notre public sur le site du comité Maméga. Merci beaucoup Mouloud pour ton intervention. Peut-être que ça a été.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
J'espère qu'on va pouvoir avoir des financements pour avoir des moyens de communication au niveau de la population importante qu'on est. Parce que voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci Mouloud.
Portez-vous bien tous. Merci de nous avoir reçus, Saïd et moi.
Salut Mouloud. Donc pour l'organisation, pour le programme, on est en avril, presque en mai, mais ça se passe en octobre. Donc on a le temps de voir venir. Ce qui est saillant, c'est qu'on va être, on va faire des expositions, de nouvelles expositions sur la marche et aussi sur le contexte de la marche. Mais pour tout cela, on aura le temps d'en parler incessamment.
Sous peu. Bah, nous ferons pareil, nous afficherons le programme sur le site du Vivre Ensemble. Logiquement, là, nous sommes sur la dernière partie qui correspond au communiqué de presse et l'espace culturel Busserine est censé nous appeler. Donc oui, en attendant quand même. Alors, est-ce que les résultats que vous attendiez lors de la marche ont été atteints ?
Atteints.
Peut-être continuer au communiqué puisqu'on regarde des drames qui se sont produits.
Oui, on peut dire deux mots en fait.
Que tout a été reporté.
Oui, alors initialement était prévu deux événements en ce début de mois de mai. Au 3 mai, il y avait un job dating organisé par le Centre social Agora qui devait avoir lieu de 13h30 à 16h30 dans le but que les jeunes puissent trouver leur job d'été avec une large représentation d'associations. J'ai eu l'info, donc je vais vous dire un petit peu. Donc, Village Club du Soleil qui cherche des chauffeurs de navettes, des serveurs, le Grand Bleu pour les surveillants de baignade. Ben, comme d'habitude, des grandes distributions donc, pour les jobs d'été. On a l'habitude d'avoir des caissiers, des caissières, des agences d'intérim dans le domaine de la logistique, de la restauration du BTP. 7 autour des métiers de la santé, des missions locales, Marseille Nord, Randball et le Centre social Agora qui tous deux cherchent des animateurs de proximité et également la représentation de centres d'apprentissage qui présentaient des stands autour de la mécanique et de la logistique. Donc ne vous désespérez pas, c'est reporté au 24 mai. Henri n'étant toujours pas là, je continue avec un événement qui était mis en place par les Muses Urbaines dans le cadre du partenariat mis en place sur le territoire avec le collectif Mémoire, duquel fait partie Mamega, Système D, ACT. Donc il y avait une journée autour de la mémoire des territoires de Herbel, de Saint-Barthélemy et compagnie. Et avec un événement festif qui devait avoir lieu donc le 7 mai, le 6 mai, et qui du coup est reporté au 27 mai. Mais on affichera toutes les informations sur le site du Vivre Ensemble. Est-ce que nous avons l'espace culturel en ligne ou pas ? Il va appeler. Donc il y avait un autre événement annoncé qui fait partie de l'espace culturel malgré tout. Non, de la mairie 13-14, qui est donc un événement autour de l'emploi. Non, les droits. Oui, alors c'est... Alors, la compagnie La Tête dans les nuages présente Jouons nos droits, mise en scène par Magali Zucco, vendredi 28 avril, donc demain à 20h. Et il me semble que c'est au sein de la mairie 13-14. Pas plus d'informations, puisque je n'ai uniquement l'affiche. Oui, donc, public gratuit, et c'est ouvert à partir du public, à partir de 11 ans. Donc, Henri, tu es en ligne, nous t'écoutons.
Bonjour à tous.
Bonjour Henri.
Et à toutes. Oui, alors quelques mots pour parler rapidement de ce qui vous attend là, de ce qui nous attend à l'espace que toi et Busserine dans les jours à venir, notamment le Festival d'humour dont bon, vous avez dû voir les affiches sur un petit peu partout et notamment sur la façade de l'espace culturel Busserine avec un super programme parce que le 11 mai on a le Camel Comedy Club avec quatre artistes, Sonia Bakri, Caro, John, Jean-Jacques Fiorito et bien entendu Kamel, l'humoriste. Et puis le lendemain, c'est le bouquet final ici à l'ECB avec Alexandre Pell, le comptable de Caméra Café qui vient avec son spectacle qui s'appelle Le Pèse le Tacle. Voilà, ça c'est les deux grosses choses de la semaine du 11 au 12 mai, donc dans deux semaines. Après on recevra également un super projet qui s'appelle Le Printemps des Minots avec de la danse et qui a fait la jonction entre l'artiste professionnel David Larry et deux écoles du quartier et une thématique avec Picasso et puis la visite du Palais National de Marseille. Enfin, toutes ces choses-là qui ont permis à des enfants du quartier d'approcher la culture. Voilà, grosso modo, le programme de ce qui vous attend en ce mois de mai. Donc, tout près de nous. Et puis, ce samedi, à l'espace culturel Busserine, du théâtre amateur, avec le repas des fauves, il nous reste des places. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà.
Je te remercie, Henri, mais je pense que toutes ces informations sont accessibles sur le Facebook de l'espace culturel. C'est bien ça ?
Absolument, sur le Facebook Culture Busserine, que vous trouverez facilement, soit en le tapant directement Culture Busserine dans Facebook, en passant par le comité Maïga, puisque je sais que nous sommes ensemble sur Facebook.
Merci beaucoup Henri. Nous allons passer à une dernière information qui est en lien justement avec la marche, même si c'est pas le même type de marche malheureusement. C'est que est organisée mercredi 3 mai une marche blanche solidaire des familles et habitants en colère, donc par rapport aux fusillades qui ont eu lieu à Marseille ces derniers jours, causant 3 morts et plusieurs blessés. Donc cette marche a lieu mercredi 3 mai avec un départ de la place Henri Verneuil. Ah, excusez-moi, j'ai dit a eu lieu, c'est la fatigue, qui aura lieu donc mercredi 3 mai. Et le départ se fait de la place Henri Verneuil et l'arrivée se fera donc devant la mairie centrale. Et le mot d'ordre est « tout semblant ». Pas de récupération, juste ensemble et solidaire. L'émission touche maintenant à sa fin. Et dernière respiration musicale avec Pierre Perret, Lily. Quoi ? Je vais chanter Lily. Ah, voilà. Merci Sidi. Merci à tous.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.